Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il y a très très longtemps, en Chine, vivait un pauvre jeune homme nommé Chang. C'était un disciple de Confucius et il possédait ce don très particulier. Chang comprenait la langue des oiseaux. Dans la cour de la maison de son maître, absorbé par ce qu'il entendait, il en oubliait ses camarades et devenait l'objet de leur raillerie. Un midi, Chang a faim, mais alors, zut, il n'y a plus un seul grain de riz dans la cuisine. Tandis qu'il se tourmente, une pie se pose sur une branche devant sa fenêtre et lui dit « Chang le bon, Chang le grand, un agneau gît à côté des champs à l'est de la ville, va vite le prendre. À toi sa chair, à moi ses tripes. » Chang, incrédule, part à la recherche de l'aubaine annoncée. Parler la langue des oiseaux. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, cette belle expression désigne une langue d'initié, une langue d'image, un code occulte qui dialoguerait avec l'inconscient ou le divin, un sabir symbolique, mystique ou carrément farfelu, riche en jeux de mots. C'est une parole aérienne qui s'oppose à une langue terre-à-terre. Elle laisse paraître le sacré qui se révèle en mille manifestations surprenantes sous des formes rocambolesques. Bref, un système de sons et de lettres à décrypter que nous pourrions peut-être prendre au premier degré. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt coucou. C'est Richard Guettet, aussi bavard que la pie. Apprendre à parler la langue des oiseaux, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pendant une heure sur la scène du nouveau théâtre de Montreuil, où le jukebox littéraire de Radio Nova vient de faire son nid, le temps d'une émission en public, à l'occasion de la seconde édition du festival Constellation, journée agora de la création radiophonique. Dans mon arbre, j'ai convié une musicienne française qui répond au nom mystérieux de Perrine en morceaux, une alchimiste de la pop expérimentale qui confectionne actuellement son 4e album intitulé « Chanson animale » à paraître en 2020, dont nous allons entendre de nombreux extraits en avant-première. Ces chansons sont composées à partir de chants d'oiseaux et elles seront entrecoupées de lectures de textes où un piaf joue un rôle essentiel. Puiserai-je ces histoires dans un roman de Robert Merle, dans un essai de Monique Pinson, dans une apologie schtroumpfement chouette du vilain Krakoukas, ou dans une réminiscence pagnolesque de l'épopée cinégétique des Bartavel? Rien n'est moins sûr. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il est l'heure de décoller.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
Bonjour, Perrine en morceaux.
Bonjour, Richard Guettet.
Alors, bravo pour ces épaulettes coiffées de plumes blanches, blanches colorées, de multiples couleurs, que vous avez choisi de porter aujourd'hui. C'est lors d'un séjour chamanique dans les Laurentides, au Québec, en écoutant un merle américain chanter chaque matin à l'aube, perché à la cime d'un arbre, que vous vous êtes aperçu que cette musique vous évoquait la house. Et vous avez eu l'idée de ce disque ainsi. Un disque écrit, et j'aime bien votre formule, en collaboration avec des oiseaux, c'est-à-dire donc à partir de véritables chants de gracieux volatiles. Tout d'abord, comment avez-vous récupéré ces chants, comme celui avec lequel nous avons ouvert l'émission ?
Oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça a commencé, enfin c'est un des débuts. En fait, j'avais plus trop d'envie de musique pendant quelques temps. J'avais divorcé d'un musicien et j'avais fait un petit amalgame avec la musique entière. Et c'est en écoutant donc j'ai arrêté d'en faire et d'en écouter pendant un certain temps, et puis c'est en écoutant cet oiseau, et puis ensuite plein d'oiseaux, que je me suis réconciliée avec l'idée même de la musique et d'en composer. Ouais, alors ce qu'on a entendu par exemple, c'est une grive solitaire sur laquelle j'ai ajouté au rythme de la grive un beat. Et si on écoute avec nos oreilles d'humain, notre beat, il n'est pas régulier, il n'y a pas une pulsation unique, parce que c'est la musique animale qui l'oblige. Donc voilà, l'idée, ce serait pour cet album, je dis ce serait parce qu'il est vraiment en train d'être fait, en train de se composer, ce serait de contraindre la musique humaine, et notamment la chanson pop, à la musique animale, et à celle des oiseaux en particulier.
Certains chants d'oiseaux, vous les avez collectés vous-même, en Picardie, me semble-t-il.
Oui, certains. Je vais souvent dans un lieu de résidence en Picardie, qui est un ancien couvent réhabilité, voilà, en résidence artistique. Et j'ai pris quelques sons moi-même. On entendra le merle tout à l'heure, c'est un merle que j'ai capté moi-même. Mais la plupart viennent quand même d'un monsieur dont c'est le métier, qui se dit audio-naturaliste, qui s'appelle Fernand Desroussins, qui a un site qui s'appelle Naturophonia, je vous le conseille. Voilà, donc là, par exemple, si je vous joue le chant d'un rossignol. Donc en fait, dans ce disque, l'idée, c'est de garder les chants d'oiseaux tels quels, de ne pas les modifier, de ne pas les altérer, de ne pas les couper. Et en revanche, pour nous, ce qui nous manque notamment, c'est du grave. Donc voilà. Et on pourrait se dire, alors, un peu à la Chassol ou à la Messiaen, l'idée d'une transposition d'un des chants d'oiseaux directs, reprendre exactement les mélodies, reprendre exactement les structures rythmiques. Moi, c'est pas exactement ma manière de faire. J'aime aussi écouter l'oiseau pour ce qu'il est en train de raconter. Et ça nous met dans une certaine humeur. Et chaque oiseau va chanter différemment. Donc, là, avec ce rossignol, moi, ça me met ici, là, dans cette ambiance. Ça, c'est le début d'une chanson qui s'appelle Rossignol. Chaque chanson ne concernera qu'un seul oiseau, aura le nom de l'oiseau, ou, voilà, en français ou en anglais. Et puis, ce morceau se poursuit. Je vous passe les détails, je vous passe là, normalement, je chante. Je chante en essayant d'écouter à la fois le rossignol et en étant fidèle à la mélodie que j'ai composée à l'origine sur ce, avec ça. Bon. Puis le morceau se dirige vers quelque chose de plus... de plus beat-based.
Volière qui deviendrait un club à Berlin, par exemple.
Par exemple, voilà. C'est-à-dire qu'à partir dans ce morceau particulier, après pour chaque musique c'est un peu différent, mais dans ce morceau, on s'habitue à la présence de l'oiseau et on peut comme ça. Bref, je l'arrête. Partir dans une musique humaine où tout à coup l'oiseau est parfaitement intégré. Bon.
Est-ce qu'on peut considérer que votre métier, sur ce disque très précisément, consiste à éditer des piafs? Pas si vous voyez le jeu de mots accablant que j'ai proposé.
Je l'entends. Mais justement, non, Richard, vous vous trompez.
Et
parce
non,
que je
vous
ne
les gardez
les
telles quelles. C'est
voilà.
Une perche que vous avez tendue.
Je ne les édite pas.
Vous l'avez dit, tout a commencé pour vous avec un merle. Mm-hmm. Et c'est aussi le cas, hasard de l'actualité de la pensée, pour une philosophe et psychologue belge qui enseigne à l'université de Liège, Vinciane Desprez, qui vient de publier aux éditions Actes Sud un ouvrage intitulé « Habiter en oiseau », dans lequel elle se demande quelles sont les leçons que nous pourrions tirer de la façon dont les oiseaux organisent leur territoire.
Super livre.
Super livre qui est là absolument devant vous. Vous l'avez montré au public, alors je me suis interrompu. Et le livre commence comme ça. Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillé à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. Je n'ai pu me rendormir. Ce merle chantait, dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps. Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillé, ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une bruyante réussite de l'évolution. C'est l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque série de notes. J'ai été capturé dès le second ou le troisième appel par ce qui devint un roman audiophonique dont j'appelais chaque épisode mélodique avec un « et encore » muet. Chaque séquence différait de la précédente, chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Ma fenêtre est restée à partir de ce jour, chaque nuit, ouverte. À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, j'ai renoué avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver, ou même de souhaiter retrouver, le sommeil. L'oiseau chantait, mais jamais chant, en même temps, ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent, d'ailleurs l'oreille, exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant, en même temps, on aura été plus éloigné. Dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition, c'est une parole, mais en tension de beauté dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle. Je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident, que le sort de la terre entière, ou peut-être l'existence de la beauté elle-même, à ce moment, reposait sur les épaules de ce merle.
Nova Book Box. Nova te masse la tête avec tes mots très doux.
Gazouille, gazouille, merle de mes nuits, puissent les armées s'habiller pour danser dans les rues, et les jeunes filles embrasser les fruits qui remplissent leur bas-ventre. Gazouille, merle de mes nuits, grogne et lamente-toi sur le déclin de l'été, ramasse des racines de lys quand le cœur du cancer consume l'amour. Gazouille, merle de mes nuits, je ne déplore ni les 10 000 baisers, ni les bâtons, ni les pierres, ni la destruction de Rome, mais j'attends ta note, mes doigts grattent la table ensoleillée.
In the grave.
Blackbird, l'une des chansons animales de Perrine en morceaux sur Radio Nova, toujours perché que nous sommes sur la scène du nouveau théâtre de Montreuil à l'occasion de la seconde édition de Constellation, journée agora de la création radiophonique. Je précise que tous les sons de l'émission, ou presque, seront envoyés en live par Perrine qui s'essaye aujourd'hui au bruitage radiophonique.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
Le dernier texte que j'ai lu pendant la chanson était un poème de Charles Bukowski, tiré d'un recueil inédit intitulé « Tempête pour les morts et les vivants » qui vient de paraître aux éditions Au Diable Vauvert. Et le prochain texte proviendra lui aussi d'un recueil de textes qui était, il y a encore quelques semaines, inédit en français, signé lui aussi d'un écrivain américain. Dans « La source de l'amour propre », disponible aux éditions Christian Bourgois, « La grande » Toni Morrison, l'autrice de Beloved ou du chant de Salomon, reproduit le discours qu'elle a tenu lorsqu'elle a reçu le prix Nobel à Stockholm le 7 décembre 1993. Discours qui abrite l'allégorie suivante. Il était une fois une vieille femme, aveugle, sage. C'était une fille d'esclave, noire, américaine. Elle vit seule, dans une petite maison à l'écart de la ville. Sa réputation de sagesse est sans égale et sans conteste. L'honneur qu'on lui rend et la crainte qu'elle inspire s'étendent au-delà de son quartier, jusque dans des endroits lointains, jusqu'à la ville, où l'intelligence des prophètes de la campagne est source d'un grand amusement. Un jour, cette femme reçoit la visite de jeunes gens qui semblent tenir à réfuter sa clairvoyance. Leur plan est simple. Ils entrent dans sa maison et lui posent l'unique question dont la réponse dépend uniquement de sa différence avec eux. Différence qu'ils considèrent comme un profond handicap, sa cécité. Ils sont debout devant elle. L'un d'entre eux dit « Vieille femme ». Je tiens dans ma main un oiseau. Dis-moi s'il est vivant ou mort. Elle ne répond pas. On répète la question. L'oiseau que je tiens est-il vivant ou mort? Elle ne répond toujours pas. Elle est aveugle. Son silence dure si longtemps que les gens ont du mal à réprimer leur rire. Enfin, elle parle. Sa voix est douce, mais sévère.
Je ne sais pas si l'oiseau que tu tiens est mort ou vif, mais je sais qu'il est entre vos mains. Il est entre vos mains. La décision de le laisser en vie vous appartient. C'est votre responsabilité.
Les jeunes visiteurs sont réprimandés pour leur moquerie, mais aussi pour le petit paquet de vie sacrifié pour parvenir à cette fin. Pour le petit paquet de vie sacrifié. Je choisis, moi, Toni Morrison, de considérer l'oiseau comme la langue. Et la femme, comme un écrivain chevronné, elle s'inquiète de la manière dont la langue dans laquelle elle rêve, reçue à sa naissance, est manipulée, voire lui est refusée, dans certains buts infâmes. Elle conçoit la langue comme une chose vivante, sur laquelle s'exerce un contrôle, mais surtout comme un acte qui porte à conséquence. La vieille femme sait que le suicide langagier n'est pas uniquement le choix des enfants. Il est commun parmi les chefs d'État infantiles et les marchands de pouvoir, dont la langue vidée de son contenu les laisse sans accès à ce qu'il leur reste d'instincts humains, car ils ne parlent qu'à ceux qui obéissent, ou pour forcer l'obéissance. Les jeunes gens protestent. Nous n'avions pas d'oiseau entre les mains. N'y a-t-il pas un chant que tu pourrais nous transmettre ? Mes anges, en deux mots, une composition de Perrine en morceaux à partir d'un authentique chant de Mes anges, extrait de son prochain album intitulé Chanson animale. En préparant cette émission, Perrine, vous avez un jour entendu une nouvelle terrible à la radio.
Ouais, j'ai entendu, comme tout le monde, que 30% des populations d'oiseaux en France, dans les campagnes françaises, mais dans le monde entier, avaient disparu. Et ça m'a choquée parce que 30% c'est juste énorme. Donc j'étais en train de travailler sur ce disque en plus. J'étais là, non mais c'est pas possible. Enfin c'était l'enfer. Donc je vais sur Google et vraiment bêtement je Google la phrase suivante: pourquoi les oiseaux meurent.
vous découvrez que Pourquoi les oiseaux meurent, c'est le titre du premier roman d'un certain Victor Pouchet, professeur de français, programmateur à la Maison de la Poésie de Paris, qu'on entend, vous ne le saviez pas, de temps en temps dans cette émission. Dans ce livre, le héros apprend qu'il pleut des oiseaux en Haute-Normandie, dans le village où il a grandi, et il part enquêter sur cette épidémie qui se trouve, s'est produit en différents endroits du monde. Et dans le livre, le héros se souvient d'un épisode particulièrement cruel de l'histoire des hommes qui se déroule en Chine en 1958. Un livre raconte un épisode époustouflant de la réforme agraire que Mao avait mise en place et qui avait provoqué l'une des famines les plus cruelles que la Chine ait connues. Les chiffres sont débattus, mais on parle d'environ 30 millions de morts. Parmi la série de décisions prises par le pouvoir à cette période figuraient quelques mesures extravagantes. Mao avait ainsi lancé une campagne des quatre nuisibles. Elle visait à libérer les Chinois des rats, des mouches, des moustiques, mais surtout, et c'est là que j'ai eu de nouveau l'impression que tout sur l'ensemble de la planète, de Chine jusqu'en Haute-Normandie et bientôt ailleurs et depuis des siècles, convergeait vers moi. Cette campagne des quatre nuisibles avait visé les moineaux friquets. Conseillé par des ingénieurs soviétiques, Mao avait fait à peu près ce calcul. Un moineau friquet mange chaque année 2,5 kg de graines, ce qui s'appelle avoir un appétit d'oiseau. Or, il y a presque 10 millions de moineaux friquets en Chine, qui dérobent donc 25 000 tonnes de graines. Les oiseaux dévorent l'équivalent de ce qui pourrait nourrir des dizaines de milliers de Chinois pendant une année entière. Les moineaux étaient donc coupables de vol, de comportement anti-patriote, de subversion anti-communiste. Il fallait adopter les mesures que la logique guerrière et maoïste imposait. La décision, douce comme Mao savait les prendre, a été d'éliminer totalement les volatiles. Il a sobrement intitulé cette opération « La grande campagne des moineaux », en chinois « Da Ma Ke Yung Dong », précisait une note de bas de page. Le grand timonier ne faisait pas les choses à moitié. Mais la poudre à canon était coûteuse et les fusils rares. Or, les ornithologues avaient remarqué que les moineaux friquets pouvaient survivre en vol pendant environ 2h30. Après, ils tombaient d'épuisement. Ici, une deuxième note de bas de page indiquait que « friquet » signifiait en latin « vif, éveillé » et qu'on les avait appelés comme cela à cause de leur comportement agité, comme un essaim d'insectes turbulents. La solution de Mao, suivant ainsi sa règle de participation des masses, a été d'enrôler tout le peuple chinois. Rien que ça, pour se débarrasser des oiseaux. Le parti a organisé une grande campagne de propagande et de mobilisation pour préparer l'opération, le 18 avril 1958, à 5 heures du matin. L'éradication a commencé. Tout le monde était chargé de parcourir les rues, les champs, villages et forêts, l'ensemble du territoire armé, de casseroles, de tambours, de gongs, de lance-pierres, de sarbacanes et de carabines. Jeunes et vieillards, hommes et femmes sont sortis de chez eux. Ils n'avaient, à vrai dire, pas trop le choix. Durant 72 heures, jusqu'au petit matin du 21 avril, le bruit n'a pas cessé. Les gens devaient secouer les arbres, tirer sur les oiseaux pour les empêcher de se poser, hurler des chants anti-moineaux et s'agiter le plus possible. Il était interdit de dormir. Des concours étaient organisés dans chaque village pour récompenser ceux qui abattaient le plus de moineaux. J'ai regardé la campagne défiler sagement derrière la vitre du train et j'ai essayé d'imaginer cette hystérie mortifère. Pendant 3 jours d'affilée, tout un peuple crie et chante pour que des petits oiseaux s'abattent d'épuisement au sol. Le vacarme est total, on démolit les nids, on brise les œufs. Et au bout d'une quarantaine d'heures, des flots de moineaux s'écroulent. On se jette sur eux pour les achever en les insultant et en criant. Quelques hommes et femmes s'effondrent, blessés, à bout de force, morts de fatigue, pour de bon parfois. Et peut-être n'était-ce qu'une timide vengeance de la nature face à leurs lugubres ailes. Sur les places, des délégués du parti comptent les moineaux, 125, que chacun a ramassés au sol. On les emporte sur des carrioles où les minuscules cadavres s'amoncellent, odeur de mort s'infuse partout, mais on a l'impression d'être utile, de sauver le blé, de préparer la plus grande récolte que la Chine connaîtra depuis des siècles. Le 21 avril 1958, un communiqué officiel du parti l'annonce, il n'y a plus de moineaux friquets sur le sol chinois. Le grand bond en avant vient de commencer par une grande chute d'en haut. En 72 heures, 10 millions de moineaux venaient d'être tués. J'ai fait le calcul, il est tombé 38 moineaux par seconde pendant 3 jours. C'était sans doute la plus grande pluie organisée d'oiseaux de l'histoire, une pluie drue, un orage même, une tempête de moineaux balayant l'immensité chinoise pendant des heures et des heures. Évidemment, cette campagne n'a pas eu les effets escomptés. En s'attaquant aux moineaux, on avait oublié qu'ils ne mangeaient pas uniquement des graines. Ils se nourrissaient également d'une très grande quantité d'insectes. Sans prédateurs, ceux-ci ont pu s'en donner à cœur joie et démolir une grande partie des récoltes qui ont donc été encore plus désastreuses que ce qui n'avait pas été prévu. À sa mesure, la grande campagne du moineau a participé à la terrible famine qui a suivi et abouti aux millions de morts et aux scènes effrayantes qu'on rapporte. Sacrifices, suicides, cannibalisme. Les effets pervers ne se sont pas arrêtés là. Pour détruire ces parasites toujours plus nombreux, on a aspergé des millions de tonnes d'insecticides dans les campagnes chinoises et que bien vite, les moineaux ont emmené avec eux des millions d'abeilles dans leur chute et bientôt toutes les abeilles. Voilà pourquoi il n'y a plus d'abeilles en Chine aujourd'hui et il ne reste plus aux Chinois qu'à se transformer chaque printemps eux-mêmes en insectes armés de coton-tiges pour polliniser fleur par fleur les arbres du pays. Perrine en morceaux sur Radio Nova, toujours depuis le nouveau théâtre de Montreuil. Alors les chants que nous avons entendus sur ce dernier morceau, Perrine, morceau qui s'intitule « Printemps synthétique », ne sont pas cette fois ceux de vrais oiseaux, ce sont des oiseaux synthétiques.
Ouais, j'ai trouvé une... Oups, attendez, il faut que je change de micro. j'ai trouvé une config sur ce synthé. Là, en fait, je joue depuis tout à l'heure et la plupart des sons des morceaux de ce disque seront faits avec cet instrument qui est un synthétiseur analogique qui s'appelle Harp Odyssey, qui est une réédition des années 70, je crois que de 74. Et en l'occurrence, oui, j'ai trouvé une configuration de tous ces petits boutons-là, de manière à jouer l'oiseau.
Ah oui.
Sur le synthé. Si je laisse appuyer, on entend évidemment que c'est pas de l'oiseau, mais... Voilà.
Très sympa à avoir chez soi. Dans cette chanson, vous écrivez « Même l'odeur des bois est un savant mélange de produits chimiques ». Ce qui s'avère tristement raccord avec la prochaine histoire tirée de l'ouvrage « Il faut sauver nos oiseaux » tout récemment signé Marc Duquet, rédac-chef d'une revue d'ornithologie qui s'inquiète à raison de la lente disparition des oiseaux dans nos villes et dans nos campagnes à cause de la chasse, de la pollution, des pesticides, du développement résidentiel et commercial, des activités de loisirs nature, aussi déraisonnables que l'escalade ou les randonnées en quad qui dérèglent les nidifications. Sans oublier, paradoxe, les éoliennes dans lesquelles les oiseaux migrateurs rentrent en collision, petits osios déchiquetés par un symbole de l'énergie renouvelable. Je pense à toi, gobe-mouche à collier, fauvette à tête noire, hirondelle rustique. Dans son livre, Marc Duquet raconte aussi ce péril auditif, une amnésie générationnelle, dit-il, supposant que nos petits-enfants n'entendront plus le chant des oiseaux. D'où l'importance de votre disque, Périne en morceaux. Et il raconte aussi cette drôle d'histoire. En Grande-Bretagne, les étourneaux sansonnets sont victimes du Prozac. Un antidépresseur qu'ils ingèrent par le biais des vers de terre, des asticots et des mouches dont ils se nourrissent. Cela signifie que notre environnement contient du Prozac. Issus des industries pharmaceutiques, des médicaments jetés dans les déchets ménagers, des eaux usées, des foyers et des hôpitaux, mais aussi des élevages industriels et des boues d'épandage. Les effets du Prozac sur les étourneaux sont les mêmes que chez l'homme, à savoir une perte de libido et d'appétit. Par rapport aux étourneaux non contaminés, ceux qui avaient consommé du Prozac mangeaient beaucoup moins et picoraient toute la journée. De plus, mise en présence de mâles, les femelles sous Prozac restaient à l'écart et ne s'intéressaient pas du tout à ceci. Les conclusions de cette étude anglaise suggèrent que la présence de Prozac dans l'eau pourrait entraîner une chute de la reproduction des étourneaux et réduire fortement leurs chances de survie hivernale. Un étourneau qui ne va donc pas très fort. C'était un véritable chant d'étourneau.
Alors, oui, c'est bon, là, je l'ai légèrement transfiguré, n'est-ce pas, pour le mettre sous Prozac. Mais oui, je vais vous faire écouter la version sans Prozac de.
Oui.
Bah, je vous dirai de qui après.
On sent que ça va mieux quand même là.
Là, ils vont beaucoup mieux. Et puis, en fait, ça, c'est un chant dont je vous passe la majeure partie. Ça dure à peu près 2 minutes et demie. C'est un duo des tourneaux que j'ai trouvé. Je suis pas la seule sur Facebook. En l'occurrence, il y avait une vidéo qui a buzzé terriblement de deux étourneaux qui s'appellent Dennis et Ernie. Ce sont des étourneaux domestiqués en Grande-Bretagne. Et voilà, qui ont fait un buzz sur Internet. Et j'ai contacté leur maître et je leur ai demandé si je pouvais composer à partir de l'enregistrement de Denise et Ernie. Et ce qu'on entend, effectivement, ça a, à mon sens, la qualité, enfin, n'a rien à envier à l'électronica pointue. Voilà, enfin,
pour moi, c'est vrai qu'on dirait le nouveau Otech, quoi.
Voilà, quoi. Hein? Je trouve que c'est très inspirant. Et alors, ils ont le bon goût d'être à 120. C'est-à-dire 120 que 120 BPM. BPM, voilà.
120 battements par minute. Perrine, je ne peux décemment pas continuer cette émission sans donner la parole à un véritable oiseau. Et qui de mieux que l'oiseau bleu, poète syndicaliste en milieu forestier, souvent considéré comme le héros le plus courageux depuis Louis XVI. L'oiseau bleu porte la parole de ses congénères menacés et figurez-vous qu'en ce moment, l'oiseau bleu écrit ses mémoires. Il a accepté de nous en lire un extrait. Ouvrons grand nos oreilles et mesurons notre chance.
Il était une fois un oiseau qu'on appelait l'oiseau bleu. Ses ailes étaient bleues, son buste était bleu et ses ailes aussi. Il venait d'apparaître d'une mer de brouillard et l'avait tout oublié, même son nom, car il venait de sauver la princesse de Jade de l'immonde chasselas, l'immonde corbe noire, qui avait des douves immenses selon des ailes dans lesquelles étaient enfermés des animaux vivants qui criaient « à l'aide !» et lui disait « C'est toi !» Alors, l'oiseau bleu, pour sauver la princesse de Jade, avait été obligé de boire dans une fontaine appelée la fontaine de l'été. La fontaine où l'on oublie tout. Mais d'abord, une page de publicité. L'oiseau bleu, c'est toi l'oiseau. Tu vas aller, tu... Maman, maman, est-ce que c'est vrai qu'il existe l'oiseau bleu? Mais bien sûr qu'il est vrai. Comment tu peux en douter? Non. Mais est-il bien tangible? Peut-on le toucher? Mais bien sûr qu'il est tangible. Tu sais, l'oiseau bleu, c'est un oiseau de 13 cm d'envergure. Tu sais, lorsqu'il vole dans le ciel, on ne le voit pas. Et tu sais, l'année prochaine, il va se présenter aux élections européennes. Et s'il est élu, eh bien, il va libérer toutes les charges qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises. Et grâce à ça, l'euro va monter par rapport au dollar et même au yen. Et à ce moment-là, eh bien, l'Europe, eh bien, tu vois, ah oui... L'oiseau bleu. Alors, l'oiseau bleu avait tout oublié, même son nom. Et il errait dans cette mer de brouillard. Quand soudain, il atterrit dans un chemin, dans le Calvados. Bon. Et puis, il regardit au sol. Et il vut une pierre. Et il voula la prendre. Car cette pierre était toute incrustée de mica et de feldspath et de similigranite. Et en plus, c'était un oiseau qui avait le sens de la propriété privée. Alors, il voula prendre cette pierre. Elle secoua son aile, mais il ne pouvait pas la prendre, car il n'avait pas de main, il n'avait pas de doigts comme les êtres humains, car c'était une race inférieure. Alors, comme il était courageux et batailleur, il s'échigna à vouloir prendre cette pierre et secoua tant son aile qu'il s'envola d'une aile. Alors, en se reposant, il se dit, tiens, je dois être un oiseau. Et puis, en remarquant qu'il avait aussi la couleur bleue, il se dit, tiens, je m'appellerai donc l'oiseau bleu. Et l'oiseau bleu, fort de son identité, s'envola dans le ciel. Et là, il traversa les nuages, et il traversa aussi la Meuse. Bon, à gauche, il vit le parc Astérix, mais elle n'y alla pas. Et il continua à voler à toutes belles ailes. Quand, au bout de quelques jours, il arriva dans une forêt magnifique, toute bordée de pins et de pins sylvestres et de pins parasols. C'était la forêt noire. Je ne sais pas, les enfants, si vous connaissez la forêt noire. C'est une forêt en Allemagne qui borde la Ruhr. La Ruhr étant le bassin industriel allemand, grâce auquel les Allemands se sont habilement sortis de la crise de 1929. Un petit peu trop dans un sens. En tout cas, l'oiseau bleu arrive dans la forêt noire. Et c'est là qu'il rencontre ses meilleurs amis de la forêt noire, comme Jean-Pierre, l'anémone de mer, ou Yvon, le dauphin des vases, ou Sylvie, le cerf transsexuel, ou Gigi, la girafe, qui n'a pas de colonne vertébrale, alors sa tête traîne. Mais c'est aussi là qu'il rencontre Pico Pico, le hérisson, son meilleur ami, grâce auquel il pouvait faire des campagnes d'affichage. Parce que avec un hérisson ou une affiche contre un tronc d'arbre, bien, on peut faire. Je sais pas s'ils comprennent. Et il faisait des campagnes d'affichage contre l'avortement des biches qui se faisaient très mal avec des pommes de pin. Et la vie dans la forêt noire fut heureuse et joyeuse. Quand un jour, au beau milieu de la nuit, vers 15 heures, à l'aube, on entendit un bruit acéré et abscond. Bien sûr, vous l'avez deviné, ce sont des militaires. C'étaient les chasseurs de coucous qui voulaient capturer des animaux vivants afin de les emmener directement dans une usine de coucous. Pourquoi ? Car à l'époque, eh bien, le coucou a complètement disparu des forêts allemandes. Et dans les horloges à coucou, on est obligé de remplacer par tout ce qu'on trouve, des sacs en plastique ou des mustélidés, quand on a que ça. Et c'est ainsi que l'oiseau bleu fut capturé et emmené à l'intérieur d'une usine de coucou. Et l'histoire se déroule encore comme se déroule un fil distendu et infini. Ah, quelle belle histoire!
Bravo à Arnaud Aymar qui se cache derrière le masque de l'oiseau bleu. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Coucou, basé, vous l'avez compris, à base de chants de coucou. Nous comprenons peu à peu que les oiseaux sont depuis des siècles violentés par l'homme. Ne pourrait-il pas un jour légitimement chercher à se venger ? C'était l'hypothèse d'une nouvelle signée en 1952 par l'anglaise Daphné du Maurier, sobrement baptisé « Les oiseaux », que j'ai trouvé il y a quelques semaines sur le pas de ma porte. « Les oiseaux » a bien entendu été adapté au cinéma par Sir Alfred Hitchcock, 11 ans plus tard, en 1963, sans fournir d'explication à la folie meurtrière des volatiles. Cependant, dans l'extraordinaire et monumental ouvrage « Hitchcock, la totale », signé Muriel Joudet, Jean-François Rogère, Gilles Esposito et Bernard Benoliel, qui analyse et commente absolument tous les films et séries et épisodes du Maître du Suspense en préambule à la rétrospective qui a démarré la semaine dernière à la Cinémathèque de Paris. Il est précisé qu'Hitchcock, en interview, disait que les oiseaux devenaient fous, les oiseaux de son film, à cause d'une infection de rage. Et dans la bande-annonce du film, il évoque cette fois, ironiquement, les mauvais traitements des humains infligés aux oiseaux. Les critiques de cinéma de l'époque, eux, ont imaginé un complot soviétique ou une revanche de la nature contre la pollution. La fin de la nouvelle originelle n'apporte pas davantage d'éclaircissement, mais elle s'avère explicitement radiophonique.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Ici, Montreuil. L'état de siège a été proclamé à 3 heures de l'après-midi. Des mesures sont prises pour protéger la vie et les biens de la population. Mais il importe que chacun se rende compte que les effets ne pourront s'en faire sentir immédiatement, étant donné le caractère imprévu et sans précédent des événements auxquels nous devons faire face. Chaque habitant doit prendre lui-même les précautions qui s'imposent. Il faut absolument que personne ne sorte de chez soi, ne sorte de ce théâtre. Il faut absolument qu'il ne reste personne dans les rues, sur les routes et autres lieux découverts. Les oiseaux, en nombre considérable, attaquent tous les passants et ont déjà lancé leur assaut sur les bâtiments. Mais ceux-ci devront être rendus impénétrables. La population est priée de conserver son calme, de ne pas se livrer à la panique. Par suite du caractère exceptionnel des événements, il n'y aura pas d'autre émission radiophonique de quelque station que ce soit avant demain matin, 7 heures.
On joua l'hymne national. Puis, plus rien. Nat ferma la radio. Il regarda sa femme. Elle lui rendit son regard.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les plus petits oiseaux étaient à présent devant les fenêtres. Nat reconnut le léger tapotement de leur bec et le frôlement de leurs ailes. Les éperviers concentraient leur assaut sur la porte. Nat écouta le bruit du bois qui se fendait et se demanda combien de millions d'années d'expérience étaient accumulées dans ses petites cervelles, derrière ses becs pointus, ses yeux perçants, les dotant aujourd'hui d'un tel instinct pour détruire l'humanité avec toute l'adroite précision des machines. Nat alluma une cigarette, ouvrit la radio silencieuse, jeta le paquet vide dans le feu et le regarda brûler. Thank you. Dernier extrait de l'album Chanson animale, composé et interprété par Perrine en morceaux. Cette chanson s'intitule Robin, qui est le nom du rouge-gorge en anglais. Robin étant aussi le nom du père de l'œuf que vous couvez en ce moment, puisque je crois savoir que vous êtes enceinte, Perrine, de 6 mois. Bravo,
d'ailleurs. Merci, merci.
Quand est-ce que sortira, non pas l'enfant, mais l'album Chanson animale?
Justement, l'œuf me rend assez incertaine de la sortie de l'album. Donc, on va dire 2020, mais j'aurais voulu au printemps, mais je crois pas que ce soit prêt au printemps. D'autant que, voilà, j'ai ces prétentions à faire ce disque en collaboration avec les oiseaux, à leur donner ce statut particulier qui soit pas celui d'image de fond. Et je suis pas sûre que j'y réussisse dans tous les morceaux qu'on entend et sur lesquels je travaille. Donc, voilà, il y a encore du boulot. Et je vais continuer à travailler dessus pour être à la hauteur de mes propres objectifs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui au cœur de ces journées de la création radiophonique. Merci aux équipes du Nouveau Théâtre de Montreuil pour leur accueil. Merci à Sullivan Clabot pour la réalisation de cette émission. Et cette émission qui ne pouvait pas se terminer autrement qu'avec la voix d'un oiseau.
Vous m'attendez, Richard ?
Non, parce qu'en fait, quand je disais la voix d'un oiseau, je pensais bien sûr au prince, au roi, à l'empereur des oiseaux, notre ami l'oiseau bleu, alias Arnaud Aymar, toujours en train d'écrire ses mémoires. Il a une dernière révélation à vous faire.
Monsieur l'oiseau bleu, André Gide, être français, c'est d'abord écouter Radio Nova. Radio Nova, c'est la France. La France de demain. Écoute Radio Nova. Sur la bouche des éléphants. Je suis l'oiseau bleu, fort et onctueux, tel de la mousseline. Je suis l'oiseau bleu, fort et onctueux, tel de la mousseline, tel un yaourt chambourci. Chambourci étant le verbe, chambourcier. Je suis chambourci, je suis chambourci de toi. Je t'aime comme on aime un fromage. Je suis l'oiseau bleu, je suis triste et gai. Je suis l'oiseau bleu. Oiseau bleu. Le droit des hommes et des animaux à vivre seuls ou en couple ou en groupe selon leur volonté. Chaque animal est libre et égaux en droit, comme devant les hommes, comme devant les esclaves. Je suis l'oiseau bleu, fils de Victor Hugo. Victor Hugo ?
Eh ?
Je suis l'oiseau bleu. Ah, l'oiseau bleu, je t'attendais. Tu sais, il faut absolument que tu agisses. Et pourquoi ? Car nous sommes désorganisés de part en part. Les forces étrangères tentent de déstabiliser l'identité nationale. J'en étais sûr. L'oiseau bleu, il faut faire quelque chose. Victor Hugo, je pars sur le champ.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.